midi martini.
C'est mercredi le 13 août avec Sophie, Nathalie et Jean-Sébastien aujourd'hui pour causer fleurs. Fleurs dans la langue, fleurs dans le mouvement. On va également parler à Vincent Vallière qui, lui, est dans la belle région de Charlevoix. Il sera sur scène ce soir dans le cadre du festival là-bas. Un festival intéressant où on a vraiment là, beaucoup d'artistes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se les prête. Il y a différents sites dans la région. Et t'es là un soir, t'es ailleurs l'autre soir, t'es ailleurs l'autre soir. Puis ça se promène comme ça dans certains établissements. Belle idée. Puis en même temps, ben ça fait en sorte qu'il y a différentes personnes qui en profitent. Puis ceux qui ont peut-être moins de mobilité, ben ont la capacité d'en profiter. Madame Tessier, Madame Larouche, bonjour.
Bonjour.
Jean-Sébastien. Vous n'étiez pas dans la discussion de corridor.
Comme toujours, comme
ben,
jamais.
Parce que vous êtes finalement là où vous êtes encore.
En effet.
Derrière la console. Mais on s'intéressait à l'argent et à notre façon de percevoir l'argent. Et étonnamment, on se rend compte que notre psyché nous joue des drôles de trucs. Et j'avais envie, tiens, à titre d'exemple, de vous poser la question. Est-ce que vous concevez moins cher 9,99 que 10$? Même si vous le savez rationnellement que c'est juste un cent de différence.
Mais surtout depuis que le cent n'existe plus.
C'est encore plus vrai qu'il n'y a pas de différence.
Ben, si on paye comptant, il n'y a pas de différence. Si on paye avec carte de crédit, avec débit, apparemment, qui nous facture la scène de différence. Mais là, après ça, si on ajoute le montant des taxes, je ne suis pas sûr qu'une scène va changer beaucoup le montant.
Ouais.
Mais psychologiquement, je ne sais pas si c'est juste par rapport aux 10$ que là, on passe du un chiffre avant la virgule aux deux chiffres avant la virgule.
La dizaine.
Ou c'est ça, ou si c'est à chaque changement de dizaine que le 29,95 dans le fond est tellement plus vendeur que le 30 et que le 30 rond ou le 30 et 27, peu importe. J'aime penser que je vois pas de différence.
Mais il y en a une, hein?
Ben il y en a une.
C'est bizarre. Mais c'est ce qu'on se disait, mesdames, dans le corridor.
Bien sûr.
J'étais pas le seul fêlé, là.
Non, il y en a d'autres.
OK.
Il y en a d'autres qui se questionnent justement sur cet effet-là. Donc, qu'est-ce que ça peut nous entraîner chez nous de voir le 9,99 ou le 29,95 ou le... Est-ce que ça nous fait acheter davantage? Je ne sais trop. Mais psychologiquement, ça nous fait dire « Ah, ben c'était pas si cher que ça » plutôt que de dire que c'était 30 et 27, comme le souligne Jean-Sébastien. Il y a peut-être une petite différence psychologique, tout simplement.
La même chose pour les très, très gros achats, c'est exactement la même chose. J'ai magasiné une maison il n'y a pas si longtemps, puis les prix des maisons, c'est pas, exemple, 100 000 $ à 200 000 $ c'est des 99 000, des 139 000, des 199 000 $900.
Pas moi, j'ai pas vendu avec un chiffre non de même.
Puis pour les voitures, c'est le même principe,
ouais.
Donc...
C'est un truc qui marche depuis longtemps.
Oui, mais je savais pour les vendeurs, pour l'industrie du détail, mais même le particulier qui va vendre sa maison, 99 900 $ je suis surpris.
Bien, elle le lance comme ça. Donc, le vendeur va lancer ce prix-là. Ensuite, il y a la négociation, si on parle de maison, même de voiture. Donc, il y a une négociation aussi qui peut s'effectuer. Ouais. Donc, c'est une question psychologique aussi de pouvoir négocier. Puis on ne franchit pas une autre dizaine ou une autre centaine ou des milliers, on reste dans une espèce d'état où on sent qu'on peut avoir un certain contrôle encore sur ce qu'on possède, une question de contrôle aussi.
Ou peut-être même que ça démontre à l'acheteur que le vendeur a peut-être une certaine ouverture, dans le cas de la maison,
peut être flexible à
aller un petit peu en dessous du prix. Hein, si on atteint un chiffron, peut-être qu'on se dit « Ah non, il ne voudra pas descendre en bas de ça ». Il y a peut-être de ça.
Donc, idéalement, et on le comprend, la tactique veut nous donner l'impression qu'on va moins dépenser.
Ben, oui,
pourtant,
c'est ça le but.
Nathalie, vous avez évoqué encore dans le corridor un phénomène qui, pour quelqu'un qui arrête très, très rarement à la pompe, était un phénomène que j'avais pas réalisé. ça ne nous dérange pas de payer plus cher à la pompe. Quoi qu'on en dise avec le litre qu'on regarde toujours, vous êtes rendu à 20 et 15, vous allez vous rendre jusqu'à 21 si c'est possible.
Oui, je ne sais pas, c'est peut-être l'effet de voir le chiffre rond. D'une certaine façon, quand on est à la pompe, on se dit « je vais en avoir plus pour mon argent, je ne sais trop ». C'est cet effet-là. Donc, on dit « ben non, je ne laisserai pas ça à 20 et 12 ou je ne laisserai pas ça à 48 et 76, donc je vais me rendre à 49 ». Donc, je ne sais pas, pour être certain que le réservoir est vraiment plein, je ne sais trop où d'avoir la crainte que « bon, mais peut-être que la pompe ne fonctionne pas bien finalement, donc une question de confiance, je ne sais trop ».
Dans ce même esprit-là, ça m'est tellement arrivé, ben ça a dû arriver à pas mal tout le monde, voir ça quand il y a deux stations-service qui sont à proximité l'une de l'autre, souvent d'un côté et l'autre de la rue. Des fois, ça arrive qu'un change son prix avant l'autre. Donc, il y a une différence d'une scène entre les deux et tout d'un coup, pouf, il y en a un qui est plus vite que l'autre. Sur un plein, une scène de différence, le litre, ça représente une quarantaine de scènes, 70 scènes peut-être. On est tellement sur les macroéconomies des fois qu'on passe à côté de bien des choses.
Mais quand même, Jean-Sébastien, là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est le phénomène inverse que décrit Nathalie. C'est que, comme vous le dites, on cherche l'aubaine, mais une fois que le gun est dans le réservoir...
On veut le chiffre plein.
On est prêt à dépenser plus pour avoir le chiffre rond.
Oui.
C'est peut-être une question, je sais pas, de performance, parce que si on s'en va du côté, par exemple, de la course à pied, hein, si je fais mon jogging avec la montre, ben j'aime ça arrêter à 30 minutes pile, pas à 29 minutes 30 secondes.
Je pensais
secondes.
Me dire que vous ralentissiez pour être sûr de finir votre marathon en 2 heures plutôt qu'en 1h58.
Ben, des fois, je fais la ruelle 3 fois là, juste pour arriver à 30 minutes pile. Et non pas comme dans les prix, hein, 29,99 ou 29,59 dans le cas des secondes. Alors, c'est quelque chose de psychologique. Je pense, Luc, il va falloir peut-être examiner ça avec des psychologues.
Ouais. Avoir un spécialiste de la question.
Est-ce qu'il y a d'autres endroits comme ça où le chiffre, finalement, nous berne un peu malgré ce que l'on croit? Exemple, justement, on pense toujours vouloir économiser, puis non, on est prêt à en ajouter. Ben... Parce qu'aussi bien aller au litre plus cher, on va arriver au chiffron plus vite.
Je pense que ça va être la même chose en bout de ligne.
Ben oui, mais... oui, surtout qu'on puis on risque d'avoir moins d'essence également. Là.
C'est ça, pour le même montant.
Ouais.
Donc, ce qu'on peut voir aussi, c'est peut-être dans les marchés, quand on va à l'épicerie, par exemple, quand on va faire ses courses, puis on rentre au supermarché, puis on se dit « Ah! » Il y a un rabais sur ce produit-là. Mmh. Mais stratégiquement, on va le placer. Il y a une question de marketing, bien sûr. Donc, on va placer le produit qui est à rabais juste à côté d'un produit qui ne l'est pas, mais qui peut être susceptible d'intéresser la personne qui va acheter le produit à rabais. Donc, on va dire, ah, ben j'économise là, donc je vais acheter celui-là.
C'est moins grave.
C'est moins grave de payer plus cher mon épicerie parce que j'aurai ma facture d'épicerie, parce que j'aurai justement économisé sur certains produits. Ou encore, certains qui vont... utiliser les coupons rabais, puis qui vont dire, bon, ben je vais aller à tel supermarché, puis ensuite à tel autre, puis ensuite à tel autre pour aller économiser. Mais en bout de ligne, ils n'ont pas calculé le prix de l'essence, donc ce que ça va leur coûter de déplacement et autres pour faire ce rabais-là.
Mais pas juste le prix de l'essence dans tout ça. Il y a notre temps. Comment est-ce qu'on quantifie notre temps?
Exactement.
Le temps, c'est de l'argent, c'est connu.
Et voilà.
Mais est-ce que le temps vaut 49,95 ou 50?
Ben il y a une épicerie qui a réglé ça, hein, puis même plus qu'une. Pour ne pas la nommer, celle où je vais près de chez moi, c'est Maxi. Et puis Maxi, t'arrives avec les circulaires des autres épiceries pour le même produit. S'ils n'ont pas le prix le plus bas, ils vont te faire un prix plus bas pour être compétitif avec l'épicerie autre. Alors là, c'est même plus une question de déplacement, de rabais.
Donc ça, c'est bien.
Mais il y a quelque chose avec les chiffres. C'est clairement, là, on a quelque chose avec le chiffre rond puis le chiffre pas rond.
Abolissons les chiffres. Abolissons l'argent. Abolissons tout.
Puis il me semble que ce serait bien plus simple de toujours avoir des chiffres ronds, incluant la taxe. Il me semble de payer avec un 20 au lieu de traîner après ça une multitude de change dans ses poches. Puis qu'est-ce qui se passe avec ce change-là?
Nathalie, parlez-moi de change. Jean-Sébastien, parce qu'on avait parlé de ça dans le couloir, puis là, vous étiez... C'était tordu, votre explication, alors je veux vous laisser vous dépêtrer avec ça. Mais en bout de ligne, la conclusion était intéressante.
Non, c'est que quand on arrive au comptoir pour payer, puis on nous annonce un prix, donc pas un chiffron comme un beau 20 $ donc de nous dire ça coûte 27,50. Et là, tu regardes ton argent, tu fais, bon, OK, j'ai la monnaie peut-être pour payer. On se dit, bien, est-ce que je paie vraiment avec
est-ce
mon
que,
argent?
Est-ce
je
regarde, que je casse un 30?
Est-ce que je casse un 30?
Casser
un 20,
de l'argent.
Juste casser de l'argent. Donc, je prends mon 30 $ donc mon 20 et mon 10 que je dépose sur le comptoir, ben, en me disant, oui, mais là, c'est parce qu'il va revenir 2,50 si je calcule bien. Donc, plutôt que qu'il me revienne 2,50, j'aimerais avoir un 5 $ Donc, ça va être moins lourd dans mon portefeuille. Ça va être beaucoup plus léger. Donc, plutôt que d'avoir la petite monnaie, ça va faire moins de sonnerie dans mon portefeuille. Alors, je regarde dans mon portefeuille s'il ne me reste pas un 2,50. Et oui, donc je donne à ce moment-là 32,50 et pour avoir en retour un 5 $ Donc, qui sera là dans mon portefeuille, qui sera beaucoup moins lourd. Mais ouais. C'est beaucoup de calculs mathématiques. C'est un petit peu fêlé comme technique.
C'est beaucoup de troubles pour finalement...
Oui, mais en même temps, je passe ma monnaie qui reste, que je ne veux peut-être pas garder dans mon portefeuille.
Et vous
pour
vous
avoir
immunisez contre l'Alzheimer plus tard.
Exactement, ouais. Tout à fait. Mais garder son cerveau actif.
Surtout depuis que les 2 puis les 1 $ ne sont plus en papier, dans l'avenir, les 5, les 10,
oui.
Est-ce que ça sera
en monnaie? Les calculs
sont
plus complexes, là. Parce qu'avant, c'était toujours en bas d'un dollar, c'était pas si pire. Mais là, il commence à avoir pas mal de pièces impliquées.
Bien, moi, je me suis fait prendre, en tout cas, une fois dans un restaurant en voulant justement pas casser de l'argent. J'ai donné un chiffron. Puis j'ai donné, disons, comme 10 $ de plus que la facture. Mmh. Puis la serveuse, elle me regardait, elle m'a dit, « Wow, merci beaucoup! » Comme si, au lieu de me redonner le change rond, dans le fond, elle a pensé que j'ai donné 10 $ de pourboire.
Comment
alors
ça s'est terminé?
Finalement, je me suis dit, j'ai été comme trop surprise de ne pas recevoir du change. Alors, finalement, elle a eu un très bon pourboire, cette dame.
Oui. Hey, parlant de pourboire, puis d'être radin, pas radin, ça n'a pas rapport. Mais, vous avez peut-être entendu parler de ce défi-là, saut de glace pour la SLA, on va appeler ça comme ça, sclérose latérale, puis le A, et la maladie de Lou Gehrig. Et là, c'est drôle parce qu'on entend les gens qui disent parce que l'idée, c'est tu te fais verser un seau de glace et d'eau très froide sur la tête et là, tu lances le défi à Sophie et à Nathalie. Et si Nathalie et Sophie ne acceptent pas le défi, elles donnent 100 $ à l'association en question. Et là, les questions souvent que j'entends autour, c'est est-ce que on honore celui ou celle qui accepte de recevoir le sceau. Alors qu'il me semble que celui qui accepte de donner le 100 $ même s'il reste au sec, c'est lui qui mérite l'attention médiatique. Mais non, là, sur les réseaux sociaux, à la télé, on met en évidence ceux qui sont mouillés.
Bien, vous me l'apprenez, Luc. Je n'étais même pas au courant de ce défi-là, en fait.
Puis Obama a refusé, lui.
Alors donc, il a donné 100 $ C'est ça que je comprends.
Oui, il a dit qu'il va, oui.
Peut-être juste pour avoir une attention médiatique, parce que recevoir un seau de glace sur la tête, peut-être pour le président, c'est peut-être ça l'enjeu, c'est d'attirer l'attention.
Mais est-ce radin de choisir le seau de glace?
Bonne question, hein?
Oui et non, parce que si on donne 100 $ d'accord, on donne 100 $ Si on soit sur glace, on donne pas 100 $ mais on a deux personnes, donc il y a possibilité d'avoir 200 $ au lieu d'avoir un seul 100 $ Donc c'est peut-être radin.
Okay, vous voyez ça comme un investissement, vous.
Oui, mais mettons que c'est ça.
Parce que vous lancez un défi à... Ouais.
Mais est-ce que c'est 100 $ ou c'est 99,99?
C'est 100 $ Essayez pas, c'est vraiment 100 $
Où est-ce qu'on va remettre tout ça en petite monnaie, comme un homme des États-Unis qui a reçu de sa compagnie d'assurance 20 000 $ mais en petite monnaie? Donc, parce que
pourquoi?
La compagnie ne voulait pas payer à prime abord. Ils sont allés devant les tribunaux et la compagnie devait remettre 20 000 $ Et parce que c'est une personne âgée qui a 76 ans et plus, ou je ne sais trop autour de ça. Puis elle s'est dit, peut-être qu'elle ne comptera pas tous les sceaux, donc on ne sait pas si on a vraiment remis le 20 000 $Ils sont dans le décompte présentement de cette petite monnaie-là. L'avocat de l'homme en question qui a reçu ces montants-là a refusé cet argent-là, a redonné les sceaux plein de monnaie à l'entreprise, à la compagnie d'assurance, et la compagnie d'assurance les leur a retourné le lendemain. Donc, pour leur dire, non, c'est vraiment ça, on vous le donne en petite monnaie. Et là, ils sont en train de vérifier si, effectivement, la monnaie est au bon compte, finalement.
Ouais. Alors, donc, comme vous voyez, ici, à Midi-Martigny, on traite des grands enjeux. On écoute Jean Leloup, ensuite, on va causer fleurs.
Mieux que partout ailleurs, au jardin de mon cœur, une petite fleur. Cette fleur, plus jolie qu'un bouquet, elle le garde en secret. Tous mes rêves d'enfant, l'amour de mes parents, et tous ces clairs matins, faits d'heureux souvenirs lointains. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur, sur mes 20 ans. Je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé. Dans mon cœur, tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur. Petite fleur.
Avec Petite Fleur. Nathalie Larouche, qui est notre... celle avec qui on déambule à travers les sentiers de la langue française. Et cette fois, ben, on va se pencher sur la fleur. Et enfin, on va aborder la mauve. Vous me dites que ça s'appelle une mauve, hein? La dite fleur qui nous permet d'avoir une guimauve?
Ben, en latin, c'est malva, donc qui veut dire mauve, effectivement. Et pour nous, ça vient du celtique et du germanique, donc vide malve ou vide malve, ouais, vide malve, comme il se doit. Excusez tous ceux qui prononcent très bien en allemand ou en scandinave ou autre, j'ai vraiment pas une bonne prononciation de ce côté-là. J'essaie, ça fait quelques années que j'essaie puis j'y arrive pas. Mais bon, alors ça vient de ce mouvement-là, de cette langue-là, donc au 12e siècle. Sophie, vous pourrez me corriger si je me trompe, parce que vous connaissez aussi très bien les plantes, donc l'origine de celle-ci. Et vide malve, en cours de route, s'est transformé dans notre prononciation en français en guimauve. Donc, malve qui devient mauve et vide qui va devenir gui en cours de route. Donc, au fil du temps, par les prononciations, déformations et autres. Et en fait, la guimauve, c'est le nom commun qu'on va lui donner, mais ça peut avoir un autre nom, si je ne m'abuse. Je crois que c'est lié à la rose trémière ou à la passerose. Sophie, je vois opiner du bonnet.
Je pense que oui, mais la fleur laurentienne que je n'ai pas avec moi aujourd'hui serait fort utile dans des cas de questions comme celle-ci, mais je pense.
Donc, en tout cas, de ce que j'ai trouvé dans mes recherches, on est effectué ce petit lien-là.
Grosse ou petite fleur? La guimauve?
Ce serait une petite fleur blanche ou mauve, justement, une espèce de lilas assez délicat, donc de cette fleur. Et ce serait, si je veux pas me mêler parce que j'ai fait plein de recherches sur plein de fleurs, donc je ne voudrais pas me mêler, mais si je ne m'abuse, ça formerait un épi. Est-ce que c'est bien ça, un épi de fleur? Donc, cette petite guimauve. Et c'est une plante des marais ou des prises humides.
OK.
Donc, puis les racines ont vraiment des propriétés émollientes ou sédatives, donc qui amollissent, qui calment, qui détendent, qui apaisent, en fait.
Mais y a-t-il un lien entre la sucrerie et la plante ou la fleur?
Oui, parce qu'on faisait jadis des friandises à base de cette plante-là, de la racine de guimauve ou du sucre qu'on y trouvait.
Continue de parler, je vois, là. C'est pas le temps d'arrêter.
Non, moi, j'essaie de trouver mes mots aujourd'hui. Je cherche. Donc, et à partir de cette base-là, donc soit de la racine ou du sucre de cette plante-là, on faisait donc une friandise qu'on appelait la guimauve. Donc, et en cours de route, puisque c'était un long processus, on a mécanisé tout ça et on en est venu qu'à faire la friandise spongieuse que l'on connaît, qui est très sucrée, qui est à base de gomme plutôt que de la plante, de sucre et de blanc d'œuf. Donc, que l'on mélange et ça donne notre marshmallow, donc le terme anglais. En fait, guimauve en anglais, c'est marshmallow. Marsh qui veut dire marais et mallow qui veut dire mauve. Donc, qui nous ramène à cette idée-là. Okay. Ici, au Québec, on a souvent tendance à parler d'un guimauve, mais en fait, c'est une guimauve. Donc, c'est un nom féminin. Et on va dire certaines fois aussi un marshmallow.
Ouais.
Donc, et ça s'écrit vraiment dans le dictionnaire québécois. Donc, on retrouve de Léandre Bergeron ou de M. Bilil. On retrouve marshmallow en un seul mot, M-A, accent circonflexe, C-H-E-M-A-L-O, ou dans certains cas, avec le trait d'union, M-A, accent circonflexe, C-H-E, trait d'union, M-A-L-O. Et dans certains cas, il y a une déformation vraiment langagière et on va avoir marshmallow.
Ah oui.
Donc, dans certains, liés probablement aux accents. Mais en fait, c'est un anglicisme, donc c'est préférable de dire guimauve à ce moment-là.
Ah, c'est joli.
Concernant la déformation qu'on retrouve de l'autre côté de l'océan sur les chamallows.
Oui, sur les chamallows, c'est la compagnie, en fait, qui faisait les friandises qui ont inversé le terme.
D'accord.
En fait, pour amener vers, au lieu d'avoir le marshmallow, pour éviter justement l'anglicisme, en fait.
Est-ce qu'on passe côté fleurette?
Côté fleurette, oui, parce qu'à partir de notre guimauve, donc on peut souvent avoir le cœur dans la guimauve, donc avoir le cœur tout ramolli par des propos qu'on nous a tenus. Donc, surtout si on se fait compter fleurette. Donc, ça peut survenir. Et on peut même avoir les jambes dans la guimauve, donc nos jambes toutes molles, parce qu'on s'est fait compter fleurette. En fait, compter fleurette, c'est une petite fleur. Et semble-t-il qu'au fil du temps, donc, au printemps, c'était souvent associé aux rencontres que l'on faisait et les gens s'offraient des fleurs ou jouaient dans l'herbe folle, donc, et batifolaient quelque peu. Et à ce moment-là, on parlait de compter fleurettes, donc on se racontait des petits propos galants, on faisait la cour, on courtisait la jeune fille et c'est devenu compter fleurettes à partir de ce moment-là. Donc, il y a certains qui ont pu imaginer des tournures assez particulières à cette expression-là, compter fleurette. Certains ont même prétendu que ça viendrait de compter fleuret, donc le fleuret étant l'arme, donc ce serait se battre en duel. Pour d'autres, on pensait à compter, donc le terme compter, C-O-M-P-T-E-R, donc l'idée de compter, on parlait de sous tout à l'heure.
Oui, oui.
Donc, compter des fleurettes. Et les fleurettes, c'était le nom de la monnaie qui était marquée d'une fleur, donc et qu'on compterait une fleurette. Donc, c'est peut-être pour ça que certaines fois, on marchande certaines personnes, donc je ne sais trop. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que compter fleurette en est venu à faire ce lien avec l'idée d'aborder les relations amoureuses.
Vous associez la bagatelle également à l'expression?
Oui, j'y viens dans quelques petites secondes, juste pour ramener que compter fleurette, ça vient aussi de l'anglais « to flirt », donc « flirter ». Et qui est en français fleureter, donc compter fleurette. Et compter fleurette.
Vous allez pas me dire que fleureter existe comme marshmallow existe?
Ben oui.
Ben voyons donc.
Fleureter existe, c'est dire des balivernes ou tenir des propos galants à une femme ou faire la cour. Effectivement, ça existe.
Dire des balivernes donc, et faire la cour.
C'est pas tout à fait la même chose. Merci de le noter, Jean-Sébastien.
Oui. Bien, semble-t-il que certains galants peuvent tenir des propos assez particuliers pour réussir à obtenir ce qu'ils désirent. Parce qu'on dit toujours que c'est tenir des propos galants à une femme. Donc, systématiquement. Donc, peut-être qu'ils inventent un petit peu pour essayer d'obtenir les faveurs de cette femme-là. Qui sait? Donc, de là, peut-être l'idée que quand on parle d'un flirteur ou d'une flirteuse, donc celui ou celle qui flirte, parce que flirt, F-L-I-R-T-E, est aussi accepté donc, dans le dictionnaire. Donc, on peut l'écrire bien que...
F-L-I-R-T-E.
Oui.
Mais on prononce flirt.
Oui.
Si on ajoute à ça une douzaine de roses, là, on fleurette vraiment.
Ah oui, puis c'est là qu'on entre vraiment dans nos petits ébats mièvres et fades. Donc, et là, de dire à ce moment-là qu'on a peut-être quelque chose à la guimauve, finalement, si je reviens faire ma boucle. Oui, la bagatelle, donc ça va être rattaché aussi à ces notions-là. On parlait de dire des balivernes, de compter fleurette. Et ça viendrait aussi se rattacher à bagatelle. Donc, les bagatelles qui, en fait, viennent de l'italien bagatella, qui est le tour du bateleur. Le bateleur, c'est qui? C'est le bonimenteur, c'est le forain, celui qui raconte juste avant l'entrée pour un spectacle, qui est devant les portes et qui va nous raconter justement tout son boniment, tout son discours pour nous séduire, pour nous amener à nous persuader d'entrer voir ce spectacle-là. Et on a appelé, on a eu l'expression « les bagatelles de la porte ». Donc, ils sont en fait des choses sans importance, des choses que l'on échange sur le pas de la porte, comme les bonimenteurs le faisaient devant la porte de leur spectacle. Et en cours de route, la bagatelle a changé un petit peu sa forme. On a changé un petit peu son lien et c'est devenu un petit peu plus érotisé. Donc, la bagatelle est devenue une chose frivole, mais qui est liée à la courtisanerie, à la galanterie. Et en cours de route, c'est transformé à l'idée de représenter l'acte sexuel ou de faire l'amour. Donc, être porté sur ou aimer la bagatelle, c'est n'avoir d'intérêt que pour les plaisirs de l'amour, finalement. Donc, ça nous a amené à faire quelques petits liens à partir de là. Et les bagatelles de la porte, c'est peut-être aussi parce que c'était ce qui se passe derrière la porte. Donc, que se passait derrière cette porte-là qui nous amènerait dans notre imaginaire, au sens figuré, à imaginer plein de choses.
OK.
Qui nous amènerait vers ça. Mais là, ne dites pas que je raconte des salades, là, parce que c'est pas ça. Là. Tout ce qui est dit, là, c'est appuyé. Là. C'est,
donc, j'en doute même pas. Marguerite, pâquerette, d'autres fleurs.
Qui peuvent aussi nous ramener à cette idée justement de compter fleurettes ou autre, qui nous rappelle un peu cette idée-là, parce que la marguerite ou la pâquerette, c'est celle qu'on effeuille. Donc, on disait effeuiller la marguerite ou encore au temps des pâquerettes, qui renvoie un peu à la même chose. Donc, effeuiller la marguerite, c'est d'enlever chacun des pétales. Exactement.
Un peu beaucoup à la folie.
Oui, il m'aime un peu beaucoup passionnément à la folie. Et à la fin, quand il n'y a plus de pétales, bien, c'est ce qui reste. Bon, on espère toujours que ce soit à la folie. Mais bon, tant que ce soit pas ça ne nous amène pas un crime passionnel. Donc, en ce qui concerne la pâquerette, on dit au temps des pâquerettes. Là aussi, on effeuille la pâquerette. Donc, à ce moment-là, ce n'est plus temps de savoir si l'amoureux nous aime d'une façon ou d'une autre. C'est de savoir quel sera notre destin en tant que femme.
La pâquerette, c'est le destin. La marguerite, c'est l'amour.
Exactement.
D'accord.
Donc, à savoir, est-ce que je serai fille, femme, veuve ou religieuse? Donc, imaginez ce petit destin qui est rattaché à la pâquerette. Imaginez quand vous tombez sur religieuse et c'est pas ce à quoi vous vous destinez parce que vous aimez un sexe ou l'autre.
Ah, mais un petit deux dans trois.
Oui, effectivement. C'est bon.
Donc, curieusement, donc on associe le tout au destin de la femme. Et pâquerette, ça vient aussi du temps de Pâques, du printemps. Donc, de rappeler cette arrivée de la fleur au printemps qui nous rappelle Pâques. Et faire bien attention de distinguer Pâques quand on parle de notre fête, de la fête chrétienne, la résurrection du Christ. De souligner ça, c'est Pâques avec une majuscule et un S à la toute fin. Alors que la Pâque juive, donc qui fête en mémoire de leur sortie d'Égypte, c'est singulier, donc il n'y a pas de S, et c'est un petit P.
Merci, donc, professeur.
L'un et l'autre.
Qu'est-ce que arrowroot?
Arrowroot, c'est une racine, en fait. Bien, c'est une plante à l'origine. C'est une plante de laquelle on fait un fécule, donc qui peut nous amener à mieux vivre si on est sans gluten, si on doit vivre sans gluten. Donc, on a une farine qui va nous aider, donc un féculent qui va nous aider à faire du liant plutôt que d'utiliser de la farine de blé ou d'utiliser une farine de seigle ou autre pour faire notre liant. Donc, l'arrowroot, en fait, on a plusieurs racines qui s'y appuient. Donc, certains pensent que c'est rattaché à la marante parce qu'on nommerait le nom latin Maranta arundinacea. Donc, excusez mon latin. Donc, qui serait à l'origine de l'arrowroot. Arrowroot, si on prend de façon littérale, c'est une racine à flèche. Et ça viendrait des Arawaks. Donc, les fameux Arawaks dont j'ai parlé avec le barbecue jadis, donc qui avait nommé le barbacoa. Donc, les Arawaks nommaient l'arrowroot aru-aru. Donc, aru-aru, et c'est le mets des mets. Donc, et à partir du tubercule de cette plante-là, on pouvait soigner les blessures de flèches. C'était aussi un anti-inflammatoire et un anti-vomitif.
Bon.
Donc, et on l'appelait aussi l'herbe à flèche, donc parce que les feuilles sont en forme de flèche.
Et vite, herbe à chat?
Herbe-achat, ne pas se tromper, herbe-achat ou herbe-au-chat, ce n'est pas la même chose.
Okay.
L'herbe-au-chat, c'est celui, donc c'est la catère en fait, qui a un effet attractif ou hallucinatoire pour certains chats qui deviennent fous quand ils le sentent, parce qu'ils n'ont pas besoin de le manger, juste le sentir de façon olfactive, ça va leur donner ce délire-là. Alors que l'herbe-à-chat, c'est à partir de graminées. Donc, certaines fois, ça peut être seulement de l'avoine, mais souvent, c'est un mélange d'orge, d'avoine, blé ou seigle, et ça a des vertus digestives pour le chat, et ça peut lui faire enlever ses boules de poils. Donc, c'est une action très différente, l'herbe-au-chat ou l'herbe-à-chat.
Okay.
Donc,
on en prend note.
Portez attention. Merci.
Alors, restons dans les plantes. Cette fois avec Sophie, on va regarder les plantes en mouvement, les plantes qui bougent. Tout de suite, ce qui me vient en tête, moi, c'est le tournesol.
Luc, je présume que vous avez dansé dans votre jeunesse sur du Nana Mouskouri.
J'ai aimé Nana Mouskouri, mais j'étais assis et j'écoutais attentivement.
Le tournesol, le tournesol.
On n'a pas besoin d'une boussole.
Donc, Nana Mouskouri, en fait, dans sa chanson, elle parlait du mouvement des plantes. Et puis, il y a plusieurs types de mouvements chez les plantes. De prime abord, on se dit, une plante, ça bouge pas.
Qui dit ça?
Ça peut pas se déplacer. Mais les plantes, au contraire, sont des êtres vivants qui ont été longtemps classés dans des êtres totalement inférieurs, tout près des roches, à peine plus vivants qu'une roche. Mais on commence à comprendre que les plantes ont une certaine forme, oser dire intelligence? Ça dépend comment on prend ce mot-là. L'intelligence, c'est résoudre des problèmes. Il y a deux grandes catégories de mouvements chez les plantes. Il y en a qui réagissent à des facteurs extérieurs. Donc, c'est pas comme, disons, vraiment la plante qui bouge par elle-même. Ça, on appelle ça des tropismes. On voit ça souvent à l'école, là, au secondaire, le phototropisme. Donc, on réagit à la lumière, comme le tournesol. Géotropisme. Donc, la gravité, hein, pourquoi les racines poussent vers le bas puis la tige toujours vers le haut? Vous allez me dire, c'est la nature même des plantes. Mais quand on fait des petits tests, il existe du géotropisme positif et négatif. Donc, on peut pencher une tige qui pousse normalement vers le haut. On peut mettre le pot à l'envers ou sur le côté. Et puis, la plante va réagir en s'éloignant de la gravité.
Wow.
Donc, géotropisme opposé à la gravité. Hydrotropisme, tygmotropisme, ça, c'est le toucher. Tygmo, c'est T-H-I-G-M-O. Tygmo, c'est toucher. Je sais pas si vous avez déjà remarqué les vignes.
Oui, oui.
C'est incroyable. Les vignes, quand on les filme puis on met ça en accéléré, là, la tige au bout va faire une espèce de mouvement en spirale. Et puis ça permet de balayer beaucoup de surface autour. Puis aussitôt que ça entre en contact avec quelque chose, soit une autre plante, un mur, il va y avoir des hormones qui permettent à toutes les autres tiges de se diriger vers ce support-là.
Donc, non seulement il va chercher à s'agripper, mais il va donner un signal aux autres pour...
Exactement. Mais ça, c'est des facteurs comme extérieurs, puis la plante réagit à ça. Mais je me suis intéressée beaucoup plus aux mouvements qu'on regroupe dans ce qu'on appelle les nasties. N-A-S-T-I-E, nasties, qui veut dire tout simplement mouvement. Mais les nasties, ça semble émaner un peu plus de la volonté de la plante, puis je vais dire volonté en gros guillemets, là. Mais pour comprendre, c'est que la plante... on dirait qu'elle a un rythme propre dans son mouvement.
Ouais.
Alors, au lieu du tournesol là, qui va se tourner au fur et à mesure que le soleil fait sa course, il y a des mouvements qui sont plus rapides, plus visibles. Entre autres, quand je parlais tout à l'heure de la vigne, hein, qui va au contact de quelque chose réagir, bien, il y a des plantes qui soit de façon défensive ou offensive, vont bouger très, très, très rapidement.
Et puis, vraiment, ça se voit à l'œil?
Ça se voit vraiment très vite.
Ou ça prend une caméra, ou ça prend...
Non, vraiment à l'œil, on le voit vraiment très bien. Il y a deux exemples. Il y a une plante qu'on peut acheter beaucoup, qui se trouve facilement là, dans les centres jardins. Elle s'appelle la sensitive. Bien, le nom est évocateur. Mmh. C'est Mimosa pudica, là, en latin. Et puis, ça a des petites feuilles composées. Et aussitôt qu'on touche vraiment du bout du doigt une feuille, tout se replie très, très, très rapidement. Mmh. Et puis, si on touche encore plus fort, là, vraiment, qu'on donne un coup sur la plante, à peu près toute la plante va refermer toutes ses feuilles en même temps. C'est un mécanisme qui fonctionne avec l'eau. C'est comme si la plante va retirer l'eau des feuilles très rapidement, mm-hmm. puis ça va faire que ça va se refermer. Alors ça, c'est peut-être une adaptation pour ne pas se faire brouter ou, je ne sais pas, s'il y a de la grêle pour ne pas que ça abîme les feuilles. On parle d'un mouvement de... tigmonastie à ce moment-là.
Est-ce qu'il y a des fleurs qui sont produites par la... C'est quoi la plante que vous dites?
La sensitive.
Oui, oui, oui.
Oui, la sensitive, elle fait des fleurs.
Donc, les insectes qui veulent soit, je ne sais pas moi, polliniser ou butiner ou peuvent pas, parce que dès qu'ils touchent à la fleur, je présume que la plante réagit.
En fait, la fleur, elle va pas vraiment réagir au toucher. C'est vraiment les feuilles, les petites okay, feuilles composées. Uniquement. Mais il y en a des plantes, certaines plantes carnivores, comme la dionée, elle va faire de la tigmonastie offensive. Donc, aussitôt que ça touche, hein, un insecte touche, hop, ça va donner un coup et on le voit facilement à l'œil nu. Il y a aussi la thermonastie. Vous connaissez le safran, hein, c'est ce qu'on met parfois dans les plats culinaires qui coûte cher. C'est une fleur, la fleur de safran. Puis on s'est rendu compte que peu importe les conditions de lumière ou les autres conditions autour, si on met des fleurs de safran au froid puis qu'on amène ça tout de suite au chaud, les fleurs passent de fermées à ouvertes. Il y a donc des réactions par rapport à l'environnement. Mais le plus étonnant, ce qui, moi, me fascine le plus, c'est la nictinastie. La nictinastie, c'est vraiment comme... On peut appeler ça mouvement de veille et de sommeil. Alors là, vous allez me dire, est-ce que les plantes dorment? C'est pas vraiment qu'elles dorment, mais elles ont un rythme. Et ça, on peut voir ça chez beaucoup de fleurs. Elles vont s'ouvrir le matin et se fermer le soir. Par exemple, le trèfle, l'oxalis, l'arbre qu'on appelle le robinier, bouton d'or, tulipe, hibiscus, pavot, et j'en passe. Mais ils n'ont pas toujours exactement la même heure d'ouverture le matin et la même heure de fermeture le soir. Il y en a même des fleurs qui sont totalement à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont se fermer le jour et puis s'ouvrir la nuit. On peut penser à l'onagre qui va s'ouvrir la nuit, même le baobab. Pourquoi tout ça? Pourquoi les fleurs ont des mouvements comme ça? Bien, la nictinastie, il y a eu plusieurs hypothèses. Pour celles qui s'ouvrent le soir, qui se ferment le jour, on peut penser, par exemple, qu'ils se sont adaptés aux pollinisateurs. Donc, okay. Si les insectes, les papillons de nuit ou, par exemple, des chauves-souris, dans le cas du baobab, vont aller polliniser le soir, la fleur, elle veut justement s'ouvrir le soir. Donc, il y a une question de pollinisation, mais il y a aussi d'autres hypothèses, telles que Charles Darwin, même à l'époque, avait évoqué. Les fleurs pourraient se fermer le soir parce que, bon, éviter un risque de gel, par exemple, mm-hmm. ou... conserver l'énergie parce que les fleurs, vous savez, ce sont les organes sexuels des végétaux. Et on veut attirer le pollinisateur parce que les fleurs ne peuvent pas se rencontrer l'une l'autre. Elles bougent, oui, mais quand même ne marchent pas, ouais. ne peuvent pas courir. Et on doit avoir un vecteur pour polliniser, pour se reproduire. Donc, c'est quoi ce qui est attractif? L'odeur, la couleur. L'odeur, ça prend de l'énergie pour produire ça. Il faut donc peut-être garder cette énergie-là au moment où les insectes qui nous pollinisent dorment, puis s'ouvrir et envoyer les odeurs au moment où les insectes sont le plus actifs.
Donc, les papillons de nuit servent de pollinisateurs également?
Oui, tout à fait.
Dans certaines régions du globe?
Exactement.
OK.
Mais il y a d'autres scientifiques qui disent « Ah, mais les fleurs se ferment la nuit C'est plutôt parce que le pollen, il pourrait y avoir de la rosée qui s'intègre au pollen, puis transporter des grains de pollen,
c'est plus lourd.
C'est lourd, ouais. C'est moins efficace.
Ça altère le pollen également, la rosée possiblement.
Oui, ça va faire en sorte que ça va se dissoudre un peu, mais l'idée la plus fascinante, et ça reste une hypothèse, mais les fleurs auraient peut-être l'intelligence de se fermer la nuit, fermer les feuilles et les fleurs pour que les prédateurs nocturnes comme les chouettes, les hiboux, les renards puissent voir encore mieux leur proie, les petits mammifères qui risqueraient peut-être de brouter les fleurs. Ça va loin, mais c'est une hypothèse plausible parce qu'on sait que...
C'est comme si la plante complotait avec le renard contre la proie du renard.
On peut voir ça comme ça.
Puis le renard fait quoi de bon pour la plante?
En fait, il va manger la souris qui risquerait de grignoter ses feuilles. Alors, vous voyez...
C'est le cycle de la nature.
Quand on dit de l'herbe au chat, vous, là.
Quand on
je
ne
sais
dit...
plus c'est lequel des deux herbes. Là,
mais finalement, il y a d'autres études qui laissent tout simplement suggérer, hein, puis il y a des expérimentations de fait, ils ont surtout les légumineuses, là, les fabacées. Ce sont des plantes qui se referment souvent la nuit. Puis ils ont fait en sorte qu'ils ont fait des tests, un groupe qui ont obligé à rester les feuilles et les fleurs ouvertes la nuit. Et ces plants-là, avec un autre groupe test, a vu sa longévité diminuer de beaucoup.
Ah oui.
Alors, est-ce que les plantes auraient tout simplement besoin de se reposer?
Oui, oui, oui.
C'est une hypothèse.
Comme nous.
Ah ouais.
On a un cycle, hein? Mm-hmm. C'est le rythme circadien, jour-nuit. Alors, quoi faire de tout ça? Ben, c'est tout simplement d'observer autour de nous.
Être fasciné.
Et puis,
moi, je pense que c'est ça qui reste.
Peut-être qu'on va découvrir la bonne hypothèse, mais je vous encourage à aller voir sur Internet les deux plantes les plus fascinantes, selon moi, qui bougent vraiment bizarrement. On l'appelle la plante qui danse. Vous faites juste plante qui danse, c'est fascinant. C'est une plante qui réagit au son, au son plus aigu, et elle bouge les feuilles assez vite pour qu'on la voie sans caméra spécialisée. Donc, son nom latin, Codariocalyx motorius, et elle peut même mémoriser les sons. Plus elle entend les sons, mieux elle danse. Okay. Et il y a le palmier à échasse. Donc, le palmier à échasse, il va littéralement se déplacer de quelques centimètres par année. Socrate exoriza, c'est son nom latin, mais faites juste arbre qui marche et puis vous allez voir des grandes racines de 2 mètres qui avancent dans la forêt tropicale, laissant les racines derrière, sécher et mourir, ce qui fait que littéralement l'arbre peut se déplacer. Wow.
Mais je faisais écouter de la musique à mes plantes. Bien, quand j'étudiais beaucoup pendant ma période universitaire, puis j'étudiais avec du Beethoven. Et mes plantes n'ont jamais été aussi belles que pendant cette période-là, que maintenant, parce que j'en écoute moins. Donc, j'en fais jouer moins. Je ne sais pas si ça peut avoir un lien d'une certaine façon. Ou c'était seulement parce que je prenais trop d'herbe, qui sait.
Ou bien vous les arrosiez parce que vous les observiez un petit peu mieux.
Peut-être aussi.
Intéressant. On écoute Vallière, ensuite on lui parle, lui, qui est probablement à Saint-Siméon.
La fenêtre donne sur la cour. impossible. Je pense à quitter la file et m'en aller loin. Je sais jamais où. Pendant que mon amour dort, je brise le silence. C'est une nouvelle journée qui commence. Le mouvement reprend tranquillement. Mes idées font du vent et me poussent vers l'avant. Pendant que la nature dort, je brise le silence. C'est une nouvelle journée qui commence. Le mouvement reprend tranquillement et mes pas crient l'élan qui me poussent en avant. Je sais jamais où.
Salutations, Vincent Vallière.
Salut.
Êtes-vous en chemin vers Saint-Siméon ou vous étiez déjà à Saint-Siméon et vous êtes en chemin vers le dépanneur?
Non, on est en route vers Saint-Siméon. Quelle bonne question, j'adore ça.
Vous êtes à combien de temps de votre destination?
Une belle distance, là, je dirais. J'évaluerais ça environ 138,5 km.
OK. C'est pas la plus belle journée pour faire de la route, mais c'est la vie.
Ben moi j'aime mieux faire de la route à la pluie que faire de la route au gros soleil. Je me dis au moins c'est comme, je sais pas, c'est une question de perception.
Ouais, ben c'est intéressant. Chant au fait, je regarde l'éventail des gens. Bon, vous êtes là ce soir. Bon, il y a René Martel, Alex Nevsky, Patrice Michaud, Yann Perrault, Alexandre Desilets, Chloé Lacasse. Également les sœurs Boulay, Nicolas Pellerin, Joseph Edgar, Guillaume Arsenault, Joël Saint-Pierre, Sarah Toussaint-Léveillé, Garoche Tassacoche, Élie et Papillon. C'est une petite place, c'est un festival de Saint-Jean. Ils vont les mettre où, tous ces spectacles-là? Ça se peut pas.
Ma question, je ne sais pas. En fait, j'ai pas vu... J'apprends un peu la programmation en même temps que vous. Là. Vous me donnez ça. D'ailleurs, c'est quel... Très content de prendre la route pour Saint-Siméon parce que c'est vrai que c'est une très belle programmation. Je présume qu'il y aura des concerts en après-midi, en soirée, en fin de soirée aussi. L'expérience, c'est un peu ça qui se passe là-bas. C'est vraiment une grande fête de la musique où c'est vraiment un événement qui fait une belle place à la chanson émergente et de la musique émergente présentement au Québec. Il y en a beaucoup, puis il en fait beaucoup, beaucoup de très bonnes aussi. Fait que pour moi, je me trouve privilégié de faire partie de cette programmation-là.
Bon, vous êtes plus estrien, mais avez-vous un rapport quelconque avec Charlevoix?
Ben non, pas rien de particulier, sinon que j'y suis passé souvent pour faire des spectacles depuis les 15 dernières années, puis qu'au fil des années, ben on s'est fait des amis, des amitiés durables en fait, et donc la route à ce faire, c'est pas juste un territoire, mais aussi c'est des gens qui habitent ce territoire-là, puis c'est toujours le fun de les retrouver.
Ouais. Bon, on passe aux choses sérieuses, Vincent.
Excellent, excellent.
C'est une question que j'ai déjà posée, mais jamais à un auteur-compositeur. Lily, Mélie, Manu, Laura, Juliette, ma tante Marielle, Claude, Gilles Lefebvre, Tigui... Et j'ai-tu fait le tour? Je pense que oui.
Ça manque peut-être, hein? Ils sont nombreux, hein?
Oui, mais en fait, les filles n'écrivent jamais des pièces où c'est à un prénom. Comment se fait-il
vrai,
que...
Ça.
Ah non?
C'est pas vrai, ça. Non, Marie-Jo Thériault, elle a écrit une très belle chanson qui s'appelle « T'es mon beau Raphaël ». Très beau, cette chanson-là. J'aurais aimé ça d'ailleurs qu'elle chante « T'es mon beau Vincent », Marie-Jo Thériault.
OK. «
T'es mon beau Raphaël ».
Bon, je note ça. Mais,
mais c'est vrai que ça fait pas légion. C'est là, peut-être parce que les garçons, je dis les garçons, moi j'aime ça donner des fois le nom d'un personnage quand j'ai donné un nom au personnage sur lesquels j'écris parce que je sais pas, on dirait que pour moi ça me facilite la vie quand vient le temps de le visualiser.
Excusez-moi, Vincent, est-ce que vous croyez à ce moment-là qu'il y a plus d'identification? Excusez-moi, c'est Nathalie, mon prénom, ici.
Salut, Nathalie.
Co-animatrice pour la petite période d'aujourd'hui. Et est-ce que ça donne une identification plus précise, le fait que vous donniez un prénom? Est-ce que ça va permettre aux gens d'être plus accrochés à vos chansons?
Ah, je sais pas. Non, je pense pas que ce soit un gage d'accrocher mieux les gens. Moi, ça m'aide simplement à écrire. Puis des fois, une fois que la chanson est complétée, quand vient le temps de lui trouver un titre, j'en parle avec Gas, qui est d'ailleurs assis juste à côté de moi, mon bassiste, avec qui je qui m'aide beaucoup à finaliser, à fignoler mes chansons à la fin. Et souvent, on en vient comme à la conclusion que tant qu'essayer de trouver un titre intelligent, nommons la chanson par le nom du personnage qu'on raconte.
OK, parce que vous l'avez visualisé d'une certaine façon, puis le prénom.
Oui. Ben, pour moi, c'est important que quand j'écris des chansons, que mes chansons deviennent un peu comme des... Pour moi, c'est un peu comme un film. Tu sais, la musique part, l'histoire part, puis il y a un début, un milieu, une fin, puis c'est important de voir la progression d'une action, de quelque chose, quand j'interprète la chanson.
Mais il y a sûrement quelque chose, là. J'aimerais ça qu'on fouille ça. Comment se fait-il que les filles ne ressentent pas ce besoin de parler à quelqu'un, ce besoin d'évoquer? Elles vont parler d'amour, elles vont parler de rupture, évidemment, là, mais c'est jamais aussi personnel.
Bien, encore là, je suis pas d'accord avec vous. C'est des sensibilités pour moi très différentes, mais je trouve qu'il y a plein de filles de ma génération, puis la nouvelle génération d'auteurs, compositrices, interprètes qui font des chansons très, très, très personnelles, très percutantes, qui se rapprochent peut-être d'une écriture plus masculine. Je pense entre autres à Lisa Leblanc, tu sais, ou les filles des Hey Babies qui ont vraiment une façon d'écrire qui est très loin d'une chanson. Quand je dis masculine, en fait, je veux dire, c'est des chansons qui ont des couilles, tu sais, c'est des chansons qui ont vraiment réellement quelque chose à dire, qui sont ancrées dans une réalité, dans leur réalité.
Ouais.
Et je pense que c'est pour ça aussi que ces chansons-là trouvent leur public.
On va utiliser le toi chez les filles de plus en plus. Je pense à Kraft Dinner, je pense à effectivement, bon, même...
Ouais.
Mais vous pensez-vous que c'est juste une différence de choix de mots, mais que l'écriture ou la perception relationnelle est la même... quand on utilise un prénom versus quand on ne le fait pas?
Je sais pas du tout, sincèrement. Moi, c'est l'écriture, pour moi, c'est beaucoup une question d'instinct. Et j'aime que ce que j'écris, ça soit ancré dans la réalité. Fait que je tiens à ce que mes textes, donc, ouais. On puisse les comprendre à la première écoute. Puis après ça, c'est le défi que de pouvoir les réécouter en y trouvant d'autres choses, d'autres éléments. Qu'est-ce qui fait qu'on s'accroche à une chanson puis qu'on a envie de la réécouter 100 fois, tu sais, ou des fois on se tanne après 2-3 fois.
Ouais.
Fait que c'est ça, ben c'est la grande question puis à laquelle j'essaie de répondre depuis que je fais des chansons.
Mais ça fonctionne parce que, bon, pour avoir vu quelques spectacles, les gens, on chante vos tunes. On fait pas juste les écouter et trouver ça bon, on participe. C'est donc que à la fois le texte est facile, est accrocheur, mais il n'est pas trop plate pour qu'on ait même plus le goût de le chanter. On a le goût de le chanter.
Oui, bien ça, c'est. Je suis content que vous me disiez ça. C'est vrai que les gens qui viennent voir nos concerts, souvent, ils ne connaissent pas juste les paroles des refrains, mm-hmm. ils connaissent aussi les paroles des couplets parce que c'est significatif pour eux autres, parce que ça les a marqués à un moment ou à un autre de leur vie. Puis je trouve ça beau que la musique, que les chansons puissent faire ça, que ça jette un baume des fois sur des moments plus difficiles que l'on vit ou que ça l'illumine des moments très heureux. Fait que ces moments-là, souvent, la musique, pour moi, ça se passe oui dans les couplets, mais aussi dans le développement des chansons. Puis je pense que pour assurer la pérennité d'une chanson, il faut miser sur toutes ces affaires-là, sur la musique, sur des refrains accrocheurs, mais aussi sur le développement, sur l'histoire qu'on raconte.
Je remarque que vous êtes sur scène ce soir. Je pense que vous y êtes également demain, mais ça semble un concept différent.
Demain, c'est un spectacle qui s'appelle « Proposer part ». Fait que l'organisateur de l'événement, Dominique Marié, m'a appelé et m'a dit « Nomme-moi 15 de tes chansons préférées ». Fait que j'ai j'ai fait une liste avec mes chansons préférées, puis avec les artistes. En fait, c'est moi, je ne sais pas exactement ce qui va se passer là, parce que ça se veut un peu une surprise pour moi, mais basée sur mes sélections musicales du moment. Fait que j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, qui va interpréter quoi, puis bien, quel genre de show ça va donner.
C'est un genre France Baudouin à Saint-Siméon.
Mais en fait, c'est vraiment là, c'est plus une playlist que des chansons qui sont réellement associées à des moments clés de ma vie.
Ouais.
Fait que j'ai vraiment sélectionné des chansons qui me tenaient à cœur, puis j'en ai profité aussi pour en sélectionner plusieurs de la nouvelle garde de la chanson québécoise. Moi, je constate, j'écoute beaucoup de musique dernièrement, puis je suis fasciné par la qualité de la musique qui se fait chez nous, surtout quand je compare à quand j'ai commencé à m'intéresser à la chanson. Il y avait, quand j'avais 14-15 ans, puis je me suis mis à jouer de la guitare, il y avait beaucoup, beaucoup moins de chanteurs à ce moment-là. Puis il y a comme vraiment eu une explosion dans la chanson québécoise. Puis là, on le ressent vraiment présentement. Puis là, le défi, je pense, qui attend notre chanson, c'est vraiment de la faire découvrir à la population québécoise. Ça a l'air banal de dire
ça. Non, faut l'acheter.
Mais faut l'acheter, faut s'intéresser à la chanson. Puis on est vraiment à une espèce de croisée des chemins parce que, bon, la façon de consommer la musique est en mutation. Mm-hmm. Et donc, c'est une industrie qui doit, je pense, accepter de se renouveler, accepter de se questionner. Mais ce qui est intéressant, ce qui est vraiment, je trouve, à notre avantage, c'est le fait qu'on a des grandes chansons, des chansons de qualité qui sont faites, pas juste des chansons qui ont existé dans d'autres décennies, des chansons actuelles.
C'est ça, on se renouvelle. Des journées comme hier au niveau au chapitre de la littérature québécoise, est-ce que ça peut être avantageux ou ben on veut pas leur voler le concept? Ils ont pris le 12 août. Puis l'idée d'inviter les gens à acheter un livre d'ici, ben on va essayer nous de trouver autre chose en musique.
Ben moi je pense que toutes ces idées-là sont bonnes et sont pertinentes, mais moi je pense qu'il faut vraiment repenser en profondeur notre façon de faire les choses. Et je pense qu'on a tous les éléments dans notre milieu pour être des précurseurs sur la planète. Je pense qu'il faut arrêter de penser que quelqu'un d'autre ailleurs va trouver la solution. Pourquoi ce serait pas nous qui pourrait la trouver? Je pense qu'on a les aptitudes pour le faire. On a tout le potentiel pour le faire chez nous.
Bonne route!
Hey, merci, ça a été un grand plaisir de vous parler à toi et à toute votre équipe. Je me permets de te tutoyer en fin de parcours, Luc.
C'est bien parfait. Et bonne soirée ce soir et profitez bien de ce petit événement qu'on vous a organisé pour demain.
Oui.
Moi, je remercie également Jean-Sébastien La Liberté à la mise en onde. Sophie s'en vient, Sophie Stanquet avec tête à tête, oui, cœur à cœur. Sophie Tessier, Nathalie Larouche, merci beaucoup.
Merci.
Je sais qu'on retrouve Sophie. Est-ce qu'on retrouve Nathalie avant la fin de la saison?
Probablement.
OK, yeah, on est content. Bonne journée tout le monde, à demain.